les éco-ateliers. Des rencontres inspirantes avec les acteurs de la transition écologique et solidaire. Proposé par Audrey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de l'émission Les Éco-Ateliers. Les 4 prochains épisodes ont été enregistrés dans le cadre du Festival du Territoire Durable, organisé par le collectif Passerelle Citoyenne en septembre dernier. La thématique d'aujourd'hui est « Produire une énergie locale, durable et citoyenne ». Autour de la table, nous avons Jean-Luc Thomas qui fait partie de Passerelle Énergie Centrale Villageoise, Hubert Rémilleux qui fait partie de la Centrale Villageoise à Coprev et Julien Chapier, directeur du pôle environnement Archaglo. Place aux intervenants.
Bonsoir, je suis Jean-Luc Thomas de la SAS Centrale Villageoise Passerelle Énergie.
Les centrales villageoises, qu'est-ce que c'est ?
Ça date de 2010-2011. C'est une participation étroite des collectivités, des populations. Le principe, c'est que les retombées économiques sont sur le territoire. Et bien sûr, on respecte le patrimoine bâti, paysager, on ne met pas des panneaux n'importe où. En 2013, c'est la première création. Et en août 2014, dans le parc naturel du Pilat, les premières centrales sont mises en service, ensuite dans le Vercors, etc. Comment ça fonctionne ? Des habitants qui investissent, vous, moi, dans une coopérative locale, une SAS, et qui participent à la gouvernance. Un sociétaire, une voix, quel que soit son nombre de parts. Ensuite, on loue des toitures à la coopérative locale citoyenne, et la centrale villageoise s'occupe de presque tout. Elle va acheter des panneaux photovoltaïques, elle va faire les études nécessaires de résistance des toitures, elle va contacter EDF pour brancher les centrales sur le réseau, etc. Et va vendre l'électricité à EDF, c'est ce qui va permettre de rembourser les emprunts et de rémunérer les sociétaires. Les revenus permettent de payer les charges et bien sûr d'engager de nouveaux projets. Alors, l'intérêt des centrales villageoises, c'est que les retombées sont locales, l'énergie partagée. J'ai fait une rapide étude, c'est l'ordre de grandeur qui est intéressant. Mais parce que l'investissement est local, les dividendes sont locaux, sont reversés aux citoyens, les entreprises qui vont installer, qui vont nettoyer, réparer, maintenir, sont locales. Donc on estime que pour 1 euro investi, c'est 2,50 euros qui restent sur le territoire. On vous invite à nous rejoindre, à acheter une part. Pour 100 euros, vous achetez une part et vous aurez une voix. Si vous mettez 200 euros, vous n'aurez toujours qu'une voix. Avec 500 euros, vous financez l'installation d'un panneau. Passerelle Énergie vient de répondre à un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'AGLO. Et nous avons pour le moment 5 sites à créer, à équiper. L'école Vincent Dardy, des locaux d'Archaglo à Champeau, à Mauve, l'école des Luettes et l'espace Noël Passat à Saint-Jean-de-Luzol. Une petite précision, Centrale Villageoise nous a imposé comme territoire de le faire sur tout le territoire de l'AGLO. Là, c'est que les premières toitures. Voilà pour les Centrales Villageoises. Actuellement, il n'y a plus beaucoup d'aide de l'État. Du coup, les toutes petites toitures de 9 kW, on n'arrive pas à les faire, elles ne sont pas rentables pour le moment. On verra, je sais que l'État recherche des moyens d'aider un petit peu ces installations-là, mais les tarifs d'achat et les aides font que en dessous de 36 kW crête, on a du mal à rentabiliser les projets. Voilà, je passe la parole à Hubert d'Acoprev. Encore une centrale villageoise.
Bonsoir, donc Hubert Rémilleux. Je travaille depuis un certain temps, quelques années, avec Acoprev, la centrale villageoise, qui se trouve dans la vallée de Quin, donc qui est pas loin de Die. Les centrales villageoises, historiquement et depuis bientôt une dizaine d'années, donc c'est des sociétés de citoyens avec les collectivités, avec les gens en local, qui investissent dans des panneaux solaires, des installations, et qui vendent l'électricité à un tarif qui était préférentiel et chaque année ils envoient leur facture au fournisseur qui est EDF et ça permet de rembourser, de payer et d'assurer l'économie de cette société locale. Avec l'autoconsommation collective, on va un cran plus loin, ou on va un peu plus loin. C'est-à-dire que l'installation que vous avez vue, là, effectivement, c'est des panneaux solaires qu'on a branchés sur le réseau public. Hein. Et par contre, au lieu de vendre l'électricité à EDF, obligation d'achat, eh bien, l'électricité, il y a des systèmes de comptage et de répartition. Et donc, la part d'électricité produite est affectée en diminution de la facture que reçoit chacun des participants de son fournisseur. Et par contre, ACOPREV va aussi envoyer sa facture de l'électricité locale qu'elle a produite et affectée à ses sociétaires qui sont aussi appelés les autoconsommateurs. J'ai essayé de faire simple, mais ça veut dire qu'un des autoconsommateurs, il participe à l'autoconsommation collective, donc ça veut dire qu'il est sociétaire d'ACOPREV et il va toujours recevoir sa facture de son fournisseur habituel, mais ACOPREV lui envoie chaque 6 mois une facture pour la part d'électricité qui a été produite localement et qui a été répartie entre les 38 autoconsommateurs aujourd'hui. Et c'est en ça qu'on peut dire que le circuit court de l'électricité est davantage matérialisé parce que les gens voient, c'est juste au milieu du village, donc les gens passent régulièrement et voient le site de production. Ils savent que c'est la société ACOPREV dont ils sont actionnaires qui a investi et ils savent que la production, elle va être répartie entre chacun des participants. Et chaque 6 mois, ils vont recevoir une facture et ils vont payer une partie de leur électricité à la société locale. C'est une forme de proximité, de circuit court. Et ce qui est intéressant, c'est que ils voient que c'est des panneaux solaires. Ils savent que ça produit quand il y a du soleil, le jour, et pas la nuit. Plus quand il y a beaucoup de soleil et moins quand il y a moins de soleil. Et que font les gens spontanément? On a vu l'illustration de Gérard qui branche sa voiture, la recharge de sa voiture hybride en journée quand il y a de la production. Donc il sait que quand il va brancher sa voiture électrique, eh bien sa consommation va être à un moment donné où il y a de la production solaire. Et puis, il y a plein de gens qui disent, maintenant qu'on sait qu'on est en partie alimenté par la production locale, eh bien, les machines, le lave-vaisselle, le lave-linge, etc., au lieu de s'embêter à le faire tourner la nuit, on le fait tourner le jour. Et puis, il y a une incitation ou un rapprochement plus concret entre la production et la consommation. Voilà. Et donc, c'est ces systèmes d'autoconsommation là qu'on a débuté, on a commencé à les étudier en 2017 dans le cadre des centrales villageoises, et puis c'était des projets européens, de l'expérimentation. Bref, on a débroussaillé le terrain. Ces systèmes d'échange d'électricité, on pouvait les faire sur une distance maximum de 2 km. Maintenant, on a, avec les propositions qu'on a pu faire avec ACOPREV, il y a une réglementation qui permet au niveau national de pouvoir les faire sur 20 km dans les zones rurales. Et puis, chaque fois, il y a des évolutions, des améliorations qui se font. Et c'est porteur de... Les choses vont encore évoluer et on va pouvoir de plus en plus faire cette proximité entre la production et la consommation. Et ça, c'est un élément important, même d'un point de vue technique. Hein, vous savez, ceux qui gèrent les réseaux électriques, RTE et Enedis, chaque fois, il faut qu'ils s'attachent à avoir autant de production que de consommation. Donc là, c'est un peu une contribution. Et puis, on a pu faire en sorte que l'électricité qui est vendue par ACOPREV, globalement, soit au même prix que l'électricité que chacun achète chez EDF ou chez d'autres fournisseurs. Donc ça, c'était un élément intéressant. Donc on peut faire du local, de la proximité, sans que ça coûte 3 fois, 2 fois ou plus cher, c'était au même prix. Enfin, vous avez entendu parler des agitations sur le prix de l'électricité, sur les possibilités de limitation ou sur les éventualités de disponibilité moindre. Mais en tout cas, aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 1 an ou il y a 2 ans, le fait de produire de l'électricité locale peut être un moyen, une possibilité d'extraire une part de sa consommation des spéculations ou des agitations du marché et d'avoir une fourniture d'électricité à prix stable et correct. Bon, je dis une part parce que effectivement on travaille là beaucoup sur le solaire photovoltaïque parce que c'est facile, c'est assez facile à mettre en place, hein, mais on pourrait faire cette même chose s'il y avait une centrale micro-centrale hydraulique qui pourrait alimenter le jour, la nuit, etc. Ça pourrait convenir à tout ça. Mais ça veut dire qu'avec ces systèmes, on peut s'assurer une partie de sa consommation. On est loin de dire on va couvrir la totalité de sa consommation. Voilà un peu le résumé rapide d'une initiative tout à fait citoyenne. C'est une SAS avec les sociétaires. Et puis à l'Assemblée Générale, chaque année, et chacun des 120 sociétaires a sa voix. Et puis dans les années qui viennent, là, on arbitrera entre quelle augmentation, quelle stabilité sur le prix de l'électricité vendue aux autoconsommateurs, ou quel niveau de dividende on va donner aux actionnaires. Bon, on n'est pas à des 15% de dividendes, mais est-ce qu'on stabilise le prix de l'électricité ou est-ce qu'on donne 3% de rémunération aux actionnaires? C'est des arbitrages qui se feront localement. Voilà.
Bien, bonjour, je suis Julien Chapier, je suis technicien dans la communauté d'agglomération Archaglo, j'en charge la direction de l'environnement. Archaglo, c'est donc une communauté d'agglomération, il y a 41 communes, 20 en Drôme et 21 en Ardèche, il y a 57 000 habitants. Et Archaglo a également lancé donc son plan climat en 2019. Donc là, on est sur les premières opérations du plan climat. Les premières actions étaient sur les aides chauffage bois et mobilité. Et là, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur les toitures publiques l'année dernière. Sur quelle base? Donc en fait, on a fait sur les 41 communes, il y a eu un inventaire des toitures en place, toitures publiques, des bâtiments communaux et des bâtiments intercommunaux. Sur cette base-là, il a été défini un potentiel de production photovoltaïque. On a lancé donc ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire qu'on cherche un candidat, un prestataire pour nous aider à développer le photovoltaïque sur les toitures publiques. On a fait ça en juin de cette année, donc à savoir qu'on a choisi de partir avec un groupement d'entreprises, en sachant que le pilote c'est la CNR, la société c'est Solarona, c'est une filiale de CNR. Dans le groupement il y a aussi donc la société d'économie mixte Énergie Rhône-Vallée, et donc en groupement également la centrale villageoise. Voilà, donc en fait maintenant il y a répartition des. Il y a un projet de répartition des projets par membres du groupement, en sachant que bon, l'ASEM développe déjà l'ASEM Énergie Rhône-Vallée des projets de photovoltaïque, Solarona aussi. Et donc voilà, l'idée c'est qu'ensuite il y ait des toitures qui soient mises en place par la centrale villageoise. L'objectif là, c'est sur la base du potentiel qui a été proposé. Donc nous, ils nous ont fait une offre, on a eu plusieurs entreprises qui nous ont fait des offres. On a choisi de partir avec CNR, notamment pour leur intérêt, on va dire, il y a un intérêt général et un fonds, c'est une entreprise, reste une entreprise en partie publique. Donc ça se rapprochait plus quand même de nos idées qu'un développeur privé qui n'avait pas la même philosophie et la même approche locale. Donc où on en est maintenant, en fait, c'est de prioriser les projets. On doit avoir une vingtaine de projets sur toiture publique et une dizaine d'ombrières. Et maintenant, on rentre dans une phase de priorisation des dossiers pour les faire passer par un tamis un peu d'études pour voir ce qu'il est possible de faire en fonction de la toiture, la problématique de l'amiante, la problématique de la proximité des réseaux, savoir lesquels on lance ensuite dans le grand bain du développement financier.
Place aux questions.
Oui. La durée de vie d'un panneau solaire et son entretien sur
La durée de vie d'un panneau solaire, on estime qu'au bout de 20 ans, l'énergie qu'il développe, c'est à peu près 95% du panneau neuf. Des panneaux solaires qu'on fabrique maintenant peuvent fonctionner pendant 30 ans. L'entretien d'un panneau solaire, il n'y a pas grand-chose. Le nettoyage, il y a peu de casse, il arrive que ça casse avec la grêle, c'est rare. La partie fragile de l'installation, c'est plutôt l'électronique, c'est l'onduleur. Et un onduleur a une durée de vie plutôt de 10-12 ans. Alors vous allez me poser la question de la recyclabilité. Quand on achète un panneau solaire, la partie recyclage est payée au moment de l'achat du panneau solaire. Il y a un réseau qui est en place et qui recycle les panneaux. On recycle à 90-95% les panneaux solaires.
C'est recyclé localement
ou c'est... Non, c'est pas recyclé localement. Je sais qu'il y a une usine de recyclage dans le milieu de la France. Il va y en avoir d'autres en France, mais non, c'est des grosses installations.
Globalement, en fait, qu'est-ce qu'on voit évoluer, c'est que sur les matières premières ou les matériaux qui sont plus en tension maintenant, les industriels, enfin, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être repris de court ou être en difficulté sur des approvisionnements. Donc les évolutions font qu'ils diminuent autant que faire se peut les matériaux sensibles et ça accélère les questions de recyclage. Quoi. Qui dit produire de l'énergie dit il y a de la matière première d'utiliser. de plus en plus recyclées et puis des parts non recyclées. Mais effectivement, on est comparé à des déchets nucléaires où là, on a une durée de conservation enfin, assez incertaine. On a des capacités de recyclage qui sont de mieux en mieux. Sur les questions de recyclage, vous pouvez regarder sur... Il y a des publications qui ont été faites par l'ADEME et qui sont assez bien documentées. Et puis, sur les panneaux solaires, c'est l'organisme qui s'occupe du recyclage, maintenant c'est Soren. Et il y a un certain nombre de publications intéressantes. Et sur cette question de recyclage, là, se développe, là, est en train de se développer, des notions d'utilisation de panneaux solaires de seconde vie. Alors, c'est-à-dire que, bon, on a vu, hein, les panneaux solaires durent 20 ans, 25 ans, voire 30 ans, et on a encore des performances importantes, hein, même sur, d'autant plus pour les panneaux qui sont fabriqués maintenant. Par contre, des fois, il y a un incendie sur un bâtiment, il y a de la grêle, il y a une détérioration, ou alors des fois, une performance qui baisse, et le parc est renouvelé. Et donc, il y a des opérations qui sont en train de se mettre en place pour dire, ben, au lieu de prendre tous les panneaux et de les envoyer au recyclage, eh bien, on prend les panneaux, on fait un tri, on les passe dans des processus de contrôle de leur performance technique. Ils marchent, ils ne marchent pas. Certains marchent bien, d'autres marchent moins bien. On les passe au contrôle de performance de sécurité électrique. Et il y a sans doute une part de ces panneaux qu'on peut réutiliser en production encore un certain temps. Donc il y a des projets qui sortent là-dessus. Et bah, c'est intéressant, bah, au lieu qu'ils aillent tout de suite à la casse, enfin, au recyclage, et ben de faire un tri et de les remettre en production 5 ans, 10 ans ou 15 ans, enfin, c'est intéressant. Les choses s'accélèrent de ce côté-là parce que la pression et la disponibilité de l'énergie enfin, étant prétendue, eh bien, il y a plein d'initiatives comme ça qui voient le jour.
J'avais une question au niveau des assurances pour les toitures. Comment ça fonctionne ?
L'assureur ou le propriétaire ou de la centrale villageoise, là, ont des assurances quand ils installent des panneaux solaires. Les centrales villageoises qui investissent et qui installent des panneaux solaires et qui louent une toiture chez un particulier, une entreprise, une collectivité, donc sont assurées. Les assurances mettent des vétos ou des fois des surprimes et des fois disent non quand il y a des activités sensibles dessous. Par exemple, vous n'allez pas mettre des panneaux solaires sur une entreprise qui fabrique des feux d'artifice, des explosifs. Il y a une série d'activités sensibles. À un moment, les hangars agricoles avec du stockage de foin étaient déclassés. Maintenant, nous, on en a fait. L'assurance, à chaque fois, regarde la situation et puis évalue le risque et éventuellement fait sa surprime. S'il y a un sinistre, bien, le propriétaire des panneaux, la centrale villageoise, est assuré. Et puis, le propriétaire du bâtiment est aussi assuré. Il y a un temps où les panneaux étaient souvent intégrés dans la toiture. On mettait l'installation et puis l'installation venait au ras de la toiture. C'est intégré au bâti. Maintenant, très souvent, on va la mettre juste en dessus. Donc on va aller chercher des fixations qui vont aller sous les tuiles ou sous les plaques, hein, sur les chevrons, les poutres. Et on va avoir des rails qui sont un peu en dessus de la toiture. Et donc on éloigne un peu et puis c'est intéressant parce qu'on a une ventilation. Et voilà.
Vous avez eu des retours par rapport à l'intérêt justement de les mettre à poser sur une toiture?
Ben, ça améliore un petit peu la performance du panneau parce qu'il y a une ventilation dessous, ouais. Effectivement. Mais surtout, ça élimine tous les problèmes d'étanchéité qu'on a pu avoir sur certaines de toitures, ouais. Parce que enlever les tuiles, refaire une étanchéité dessous, si c'est très bien fait, très bien. Ça n'a pas toujours été très bien fait et voilà. Donc là, on limite ce problème d'étanchéité.
Mais moi, je me demandais si c'était vrai que c'était plus délicat pour les pompiers d'intervenir sur un incendie, pour le risque d'électricité.
Bah, quand il y a les panneaux, une bâtisse ou quand il y a les panneaux solaires qui brûlent, ou qui les pompiers sont beaucoup plus prudents. Bon, ils ont des moyens d'intervenir, mais pourquoi ? Parce que les panneaux solaires, tant qu'ils sont exposés au soleil, il y a un courant électrique dedans. Donc effectivement, mais c'est un risque parmi d'autres et qui est spécifique. Alors dans l'entretien, par contre, parce que si ça brûle, lié au panneau solaire, c'est qu'il y a un défaut d'entretien à un moment donné. Hein.
C'est quoi l'intérêt de passer par un collectif comme ce que vous avez présenté par rapport à une maison individuelle, quoi, qui gère son truc par lui-même ?
Ces deux approches qui sont un peu différentes, certes complémentaires. Les installations collectives telles qu'on a faites là, par exemple, bon, ça permet de faire des installations plus grandes, moins chères au kilowatt crête, à l'unité, donc d'avoir des coûts de production et des coûts d'installation plus bas. Ça permet dans ces systèmes-là de pouvoir alimenter des particuliers qui ne peuvent pas mettre des panneaux solaires chez eux, parce que mal orientés, parce que la toiture est vieille, parce qu'ils ne peuvent pas le financer, etc. Enfin, donc ça répond à une partie. Et faire une installation chez soi permet aussi de produire et de consommer chez soi. Hein. Donc c'est deux doigts d'une même main, enfin c'est deux façons d'agir. Hein. Et chez Incoprable, là, on a déjà deux, trois particuliers qui produisent chez eux. Et ce qu'on est en train de préparer, c'est que les excédents de leur production viennent alimenter notre opération collective. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont la possibilité, qui ont envie, qui ont les moyens financiers, qui peuvent le faire. Donc ils le font, mais ils se disent, mais quand même, ce qui est fait là, ça m'intéresse. Donc les surplus de cette production, hop, ils vont rejoindre l'opération collective.
En fait, j'ai pas compris comment vous différenciez le réseau, parce que c'est le même réseau électrique finalement, ou c'est un réseau parallèle qui est utilisé ?
Voilà, on arrive à la question pratique. Non, on ne recrée pas un deuxième réseau électrique, des câbles, ce serait c'est impensable, quoi. Hein. Donc ça veut dire que la production qu'on a vue là, elle est branchée, la production sort et va sur le réseau électrique. Et c'est un système de comptage. Donc dans les systèmes d'obligation d'achat, quand on vend à EDF, on relève le compteur une fois par an. Et puis on envoie la facture, ou des fois deux fois par an. Hein. Voilà. Là, dans notre système, ça veut dire qu'il y a un compteur, c'est les compteurs Linky ou similaires, qui va compter la production chaque demi-heure. Et c'est Enedis, de par sa fonction, là, qui est responsable de collecter ces données et de nous les transmettre. Et puis d'un autre côté, aujourd'hui, les 38 autoconsommateurs qui participent, ils ont leur compteur aussi, qui va compter la consommation chaque demi-heure. Et puis nous qui organisons cette opération, eh bien on a dit à Enedis, la production de chaque demi-heure, là, on va la répartir entre les 38 autoconsommateurs au prorata de leur consommation. Ces systèmes de répartition, mais qui sont contractuels, hein, eh bien, c'est Enedis qui s'en débrouille, et nous, on reçoit chaque mois ces données-là, et on est capable de savoir, eh bien, on a produit 100, par exemple, eh bien, il y en a 10 qui va pour tel autoconsommateur, il y en a 3 pour lui, il y en a 2 pour lui, etc. Donc le système de comptage est comme ça. Mais effectivement, c'est pas, on ne suit pas les électrons qu'on a produits dans les panneaux pour voir, oui, bon. Ce qu'on produit va sur le réseau général, et puis les électrons naviguent sur le réseau indépendamment de d'où ils sortent. Hein. De par quelle source ils ont été animés. Et donc, on passe le compteur de production et ça va dans le réseau général. Et puis, de l'autre côté, les participants, eh bien, ils ont un compteur de consommation. Et là, on dit, quand ils ont consommé 100, par exemple, il y a 20, en gros, c'est la moyenne, hein, il y a 20 qui vient de la production d'Acoprev, et puis les 80 restants, eh bien, c'est les fournisseurs X ou Y. Effectivement, les électrons qu'on produit, quel que soit qu'on les vende à EDF obligation d'achat, qu'on les vende à nos autoconsommateurs, ou qu'on les vende à un opérateur X ou Y, hein, qu'on pourrait, les électrons, ils vont toujours au plus près dans les réseaux électriques. Hein. Mais par contre, la différence, c'est à qui on fait la facture, et le consommateur, eh bien, son électricité, à qui il la paye.
Le nombre de panneaux que vous avez posé à Vesti, vous l'amortissez sur...
Alors, l'amortissement, on va... Comptablement, on va considérer que ça dure au moins 20 ans. Bon, ça, c'est l'amortissement comptable. Mais on a calculé, dans notre système d'autoconsommation, on calcule le prix de revient, le coût de production du kilowattheure et le prix auquel on peut vendre les kilowattheures aux autoconsommateurs. Ça veut dire que c'est la première opération telle qu'on l'a faite, on est sur une rentabilité de 12, 13 ans, 14 ans à peu près, quoi. Mais comme on était contraint par un certain nombre de choses, on a eu un certain nombre de subventions publiques, un peu plus que les situations normales, pour pouvoir enclencher les choses. Et aujourd'hui, la situation avec les prix de l'énergie chez les particuliers, ça a un peu monté, mais le prix de l'énergie a été quand même un peu... les augmentations ont été ceinturées. Hein. L'État a dit à EDF à bloquer les prix de l'énergie, quoi, en gros, hein, même si ça va reprendre encore apparemment 15%. Mais c'est sans commune mesure avec les prix sur le marché de gros qui ont fait x10, quoi, en gros. Hein. Donc la question de rentabilité, eh bien... dans les systèmes d'autoconsommation, eh bien, elle est de plus en plus le temps de retour sur investissement est de plus en plus réduit au fur et à mesure que les prix augmentent. Quoi. on a travaillé sur un projet d'autoconsommation collective avec la centrale villageoise Gerben Rail, la voisine de Acoprève. Et sur les prix qu'on avait, mais l'an dernier déjà, on était sur une douzaine d'années. Et puis là, il y a des projets sur lesquels on travaille avec des collectivités qui achètent l'électricité à 50, 60, voire 80 centimes le kilowattheure. Là, en 2 ans, 3 ans, c'est rentabilisé. C'est rentabilisé au sens où l'économie générée, dans un prix un peu totalement délirant, se fait en 2-3 ans. Quoi. Mais c'est plutôt le fait qu'avec un système comme ça, eh bien, on enlève une partie de sa consommation de la spéculation ou des aléas du marché. Quoi. Et on le sécurise à un prix donné sur 25-30 ans. Quoi. C'est beaucoup plus intéressant maintenant de travailler sur l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective, qu'il y a 2 ans. Quoi. La donne a complètement changé et on le sent très bien dans les préoccupations.
C'était les Éco-Ateliers, proposés par Audrey.